Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. L'Égypte peut-elle jouer un rôle central dans l'après-Hamas à Gaza? Alors Lise, avec vous et notre invité, donnez-nous d'abord les résultats de ces mini-sondages.
Alors, on est à une grande majorité de oui. D'abord, sur Facebook, on est à 73% de oui pour seulement 27% de non. Sur Insta, c'est encore pire, au pire ou mieux. En tout cas, bon, voilà, on est à 96% de oui pour 4% de non. Hein. Et sur X, on est à combien? Sur X, on est à 50-50 et donc on va demander son avis à notre invité. On est avec David Rigoulero, géopolitologue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que selon vous, David, l'Égypte peut jouer un rôle central aujourd'hui au Moyen-Orient?
Ah ben, elle a toujours joué un rôle central pour la question spécifique de Gaza, en tout cas. Mmh. Et elle a un rôle incontournable, oui, au Moyen-Orient, puisque l'Égypte est un pays important. Il faut rappeler que c'est le premier pays à avoir signé un traité de paix avec Israël en mars 1979, dans le prolongement des accords de Camp David de 1978. À ce titre-là, il y a des relations ancienne entre l'Égypte et Israël, et dans la configuration actuelle, évidemment, l'Égypte a un rôle tout particulier puisqu'elle offre le seul point d'entrée et de sortie avec le terminal de Rafah sur la bande de Gaza. Oui. Et donc elle est très sollicitée, évidemment, notamment pour la problématique humanitaire.
Oui, donc il y a un certain nombre de blessés qui ont pu rentrer hier par ce terminal de Rafah et également des gens qui ont une double nationalité. Mais on voit bien tout de même que l'Égypte a très peur d'accueillir des réfugiés palestiniens, David.
Ah oui, elle a pas ouvert au flux potentiel, évidemment, parce que l'Égypte, effectivement, vous rappelez qu'hier, il y a 5 Français qui étaient bloqués, qui sont rentrés, 76 blessés palestiniens ont pu passer, et 335 étrangers binationaux. Mais c'est au compte-gouttes, parce qu'en réalité, l'Égypte est très inquiète. Elle ne veut pas, en fait, ouvrir massivement le terminal, dans la mesure où il y aurait le risque d'un afflux de plusieurs centaines de milliers de Gazaouis. Alors, il y a deux raisons à ça qui justifient la crainte de l'Égypte. L'Égypte dit que justement elle ne veut pas valider ce flux de réfugiés qui sont pas du tout assurés de pouvoir revenir à Gaza. Donc c'est une manière de montrer qu'elle prend en compte, comme toujours, la cause palestinienne pour éviter une nouvelle Nakba, une catastrophe de réfugiés. Et puis la deuxième raison, c'est que s'il y avait cet afflux de plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'installeraient dans le Sinaï momentanément ou plus durablement, ça serait profondément déstabilisateur pour l'Égypte, et doublement d'ailleurs en termes purement de gestion humanitaire, évidemment, parce que ce serait très compliqué, même s'il y avait des aides internationales. Et puis il y a la hantise aussi que dans ce flux sortiraient des activistes du Hamas, et on sait que le Hamas, qui est rattaché à la mouvance des frères musulmans, fait l'objet d'une répression féroce en Égypte même. Donc c'est très compliqué pour l'Égypte, évidemment, qui veut assurer sa solidarité à la cause palestinienne sans être débordée, justement, des mouvements incontrôlés de population.
Est-ce que c'était réaliste, justement, David Rigoleros, d'envisager d'installer les Palestiniens dans le Sinaï? Est-ce que c'est une vraie possibilité?
Alors, il y a un document qui vient de sortir, qui a été relayé par l'ONG Mekomit, qui fait état à un document qui daterait du 13 octobre du ministère des Renseignements israéliens, qui évoquerait cette possibilité, justement, d'installation des réfugiés et donc, en fait, d'une forme d'expulsion des Gazaouis. Évidemment, ça a suscité beaucoup de remous en Israël. Le Premier ministre a été obligé de dire que c'était juste un exercice hypothétique. Il a qualifié le document de purement conceptuel, je cite, dont les éléments similaires sont préparés à tous les niveaux du gouvernement et que ça n'engage à rien l'exécutif israélien. Mais en tout cas, effectivement, ça faisait partie d'un des scénarios qui étaient envisagés par l'étude. Le premier étant l'installation d'une autorité palestinienne après le Hamas. Le deuxième, le maintien de la population avec un autre pouvoir. Et le troisième, jugé plus favorable du point de vue de l'étude en question, le flux vers le Sinaï avec une installation temporaire et durabilisée. Évidemment, ça accrédite pour l'Égypte la nécessité de verrouiller d'autant plus le terminal de Rafah.
Oui. Alors, il y a aussi un grand mécontentement, hein, David, parmi les Palestiniens face au fait que l'Égypte notamment, mais aussi l'Arabie Saoudite et la Jordanie interceptent ou aident à intercepter des missiles et les drones des rebelles houthis au Yémen. Est-ce que les accords de paix que notamment Israël a avec l'Égypte et avec la Jordanie, ça peut les amener à se battre aux côtés d'Israël malgré leur soutien pour les Palestiniens?
Ah non, ça c'est absolument pas d'actualité. D'ailleurs, la Jordanie vient de rappeler son ambassadeur,
Exact.
justement, en dépit de l'accord de paix de 1994. Non, de la part des pays arabes, il y a évidemment un soutien à la cause palestinienne qui est affiché de manière ostentatoire, y compris l'Arabie saoudite, qui est de toute façon pris un peu dans le piège de la dynamique actuelle, parce que il y avait les velléités de normalisation de Mohamed bin Salman qui sont largement hypothéquées aujourd'hui, et il est tenu par deux choses, le prince héritier saoudien, par le fameux plan Abdallah 2002 qui prévoyait une normalisation en échange du territoire, ce qui n'était plus d'actualité, et puis le royaume saoudien est le gardien des deux lieux saints. Donc on voit bien qu'il est dans une situation très embarrassante, pour le plus grand plaisir de Téhéran d'ailleurs. Donc non, et en l'occurrence concernant les missiles en question, c'est la marine américaine qui les a interceptés, notamment les missiles Houthis qui avaient été envoyés. C'est l'USS Carney qui les a interceptés, et donc c'est la protection aérienne qui va être conférée par les systèmes antibalistiques américains dans la région.
Merci beaucoup, David Rigoleros, pour
Merci.
cette analyse. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Bonne journée à vous.
Merci. Au revoir.